Bonsoir à toutes et à tous. Du grain à moudre, c'est aussi tout l'été. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Ce week-end, c'est le grand chassé-croisé entre juilletistes et haussiens. Pour certains, les vacances, c'est à la mer. D'autres préfèrent la montagne, la campagne ou même la ville. Pour tous, il y aura certainement au moins une sortie culturelle pour aller visiter l'un des 44 000 monuments historiques qui parsèment la France. On le sait, avec 83 millions de visiteurs par an, nous sommes le premier pays touristique du monde, grâce en partie au patrimoine. Ce qui amène souvent à aborder cette question par le versant économique au détriment d'enjeux plus scientifiques ou politiques. Or, on voit bien avec l'intérêt récent et réel des pouvoirs publics que ces différentes dimensions sont largement interdépendantes. Que ce soit la nomination de Stéphane Bern à la tête d'une mission de réflexion sur le financement de la rénovation du patrimoine en péril, la création d'un loto du patrimoine avec le concours d'une fondation privée, la loi Elan qui donne un peu plus de pouvoir aux élus locaux et un peu moins aux architectes des bâtiments de France, ou enfin la mission confiée au président du Centre des Monuments Historiques pour réorganiser la Direction Générale du Patrimoine au sein du ministère de la Culture. Économie, politique, histoire de l'art et architecture sont en jeu, alors le patrimoine, un pari gagnant? C'est la question que nous allons poser dans du grain à moudre d'été ce soir. Vous pouvez nous écouter évidemment en direct sur France Culture et quand vous le désirez sur franceculture.fr et justement dans le studio. L'un de nos invités est Philippe Balaval, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président du Centre des Monuments Historiques, vous venez d'être renouvelé pour votre troisième mandat consécutif et vous êtes chargé donc de cette mission de réorganisation de la Direction Générale du Patrimoine, qui est donc une direction au sein du ministère de la Culture. On aura évidemment l'occasion d'y revenir. En studio ici à Paris, également Patrick Bouchain, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes architecte, on vous doit notamment l'aménagement de la cour d'honneur du Palais Royal à Paris en collaboration avec l'artiste Daniel Buren, les fameuses colonnes de Buren, la rénovation des usines LU à Nantes, devenu le lieu unique, ou encore l'Académie équestre de Versailles dirigée par Barthes. Je cite là quelques-uns de vos projets qui sont en lien avec cette question du patrimoine qui va nous occuper ce soir. Et enfin, on est au téléphone avec Didier Rickner, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien de l'art et fondateur de la Tribune de l'Art, sur laquelle, évidemment, vous suivez très attentivement ces questions de patrimoine. Alors, et de politique patrimoniale. Alors, on va peut-être commencer avec vous, Philippe Balaval, si vous le voulez bien. Est-ce qu'on assiste, selon vous, à une forme de regain d'intérêt pour cette question patrimoniale, puisqu'on a le sentiment d'en avoir rarement autant parlé que ces derniers temps? Alors, deux interprétations possibles. Soit c'est la marque d'un renouveau de la réflexion sur le sujet, soit c'est qu'il y a péril en la demeure. Où est-ce qu'on en est exactement sur cette question, Philippe Balaval?
Il y a effectivement un regain de la réflexion et la politique patrimoniale est revenue sur le premier plan de la scène des politiques culturelles, scène dont où elle n'avait pas occupé tout le temps la même place. Hein. Il y avait eu une année du patrimoine à la fin des années 70, juste avant le changement politique de 1981. Il y avait eu des initiatives ponctuelles comme le plan en faveur des cathédrales. Mais c'est vrai que cette prise en compte au plus haut niveau de l'État, peut-on dire, des enjeux du patrimoine et nouvelles, et beaucoup se sont accordés à reconnaître que ils n'avaient jamais entendu dans la bouche d'un chef de l'État les propos sur le patrimoine que le président Macron a prononcé à l'Élysée le 31 mai dernier dans un discours fondateur.
Didier Rickner, est-ce que vous partagez cette analyse de Philippe Balaval sur l'importance, le regain d'importance accordé au patrimoine et à la politique culturelle en sa direction?
Alors qu'il y ait un regain d'importance du discours sur le patrimoine, c'est-à-dire qu'on entend beaucoup parler du patrimoine actuellement, c'est évident. La preuve, par exemple, cette émission, qui n'est pas la seule. Il y a beaucoup d'émissions consacrées au patrimoine, on parle beaucoup du patrimoine. En revanche, comme vous le disiez, il y a péril en la demeure, hélas. Et les grands mots du président de la République, que d'ailleurs il reprend via la ministre de la Culture dans l'aide de mission donnée à Philippe Balaval, où on lit par exemple que le patrimoine fait partie du cœur politique de la nation, qu'il constitue une ressource précieuse pour les territoires qui parfois n'en ont pas d'autres, et qu'il faut faire attention aussi au patrimoine naturel, patrimoine culturel et patrimoine immatériel. Tout cela c'est vrai, malheureusement, je ne dirais qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, et c'est pareil pour le patrimoine. Et les preuves d'amour, on attend qu'elles viennent de la part d'Emmanuel Macron, parce qu'il y a beaucoup de choses inquiétantes, beaucoup de signes très inquiétants, dont la loi Elan dont vous parliez.
On va y revenir évidemment, mais je voudrais terminer ce premier tour de table avec vous, Patrick Bouchain, en tant qu'architecte, je le disais. Est-ce que vous avez le sentiment aussi qu'on voit ressurgir cette question du patrimoine récemment?
C'est vrai qu'avec, d'abord moi, j'ai toujours considéré qu'on ne pouvait pas faire la table rase, et donc très tôt, je me suis intéressé à plutôt réparer que construire, et donc avec la décentralisation, on a vu des collectivités locales en difficulté ou héritant d'un patrimoine important, parce que il y a le grand patrimoine et il y a aussi le petit patrimoine. En effet, il y a le patrimoine naturel, mais on peut dire qu'il y a un patrimoine immatériel ou il y a un patrimoine vivant. Je sais pas, la gastronomie en fait partie, et on peut dire que les collectivités locales ont un rôle à jouer. Il faudrait-il encore qu'on leur donne les moyens de le jouer? Alors, est-ce que ce sont des moyens financiers ou est-ce que c'est une liberté qu'on leur donne, ou tout au moins une confiance déléguée que l'on fait donc aux élus de la République, de considérer que eux, comme les autres, sont capables de défendre le patrimoine?
Alors, on va revenir évidemment, parce que c'est central, hein, cette question de la tension entre le local et le national. Finalement, faut-il que la politique patrimoniale soit centralisée au ministère de la Culture, ou faut-il déléguer un petit peu plus de pouvoir aux élus locaux? Mais puisque Patrick Bouchain nous y invite, Philippe Bélaval, il faut se livrer à un exercice de définition. C'est vrai que quand on entend patrimoine, on pense d'abord à des châteaux, à des églises, pour le dire de manière un petit peu rapide. Or, il s'agit bien évidemment de bien autre chose. Je pense récemment, voilà, à ce classement au patrimoine mondial de l'humanité, je crois que c'était en 2012, des terrils et des cités ouvrières dans le nord de la France. Donc, on voit bien que ça va bien au-delà des châteaux et, encore une fois, de ces grands monuments auxquels on peut penser.
Bien sûr, on n'est plus du tout aujourd'hui, en ce début du 21e siècle, à une conception étroite du patrimoine. Il y a le patrimoine industriel que vous venez de mentionner. Il y a évidemment le patrimoine naturel. Mais ça, déjà, la loi de 1930 sur les sites avait marqué son entrée dans le champ patrimonial. Il y a le patrimoine linguistique. Il y a toutes les formes du patrimoine immatériel, les mythes, les croyances, les folklores, il y a les métiers d'art,
tout ça, c'est compris dans votre mission.
Tout ça, c'est compris dans le champ d'activité du ministère de la Culture. Et la question, c'est l'enjeu de ma mission, c'est effectivement de voir comment tous ces différents enjeux sont pris en compte par le ministère, mais le ministère au sens large, pas seulement les services qui sont à Paris ou les services qui sont dans les régions, dans les territoires, mais comment finalement ce patrimoine qui est l'affaire de tous, il est traité, et si les enjeux qui sont aujourd'hui les nôtres sont correctement pris en compte.
Didier Rickner, cette extension du domaine du patrimoine, comme on pourrait le dire, pose évidemment la question du choix de ce qui mérite ou non d'être conservé véritablement. Comment est-ce que vous pensez qu'il faut prendre ce genre de décision? À qui ça appartient? Revenons-en à cette question entre le local et le national.
Le choix, il est déjà en grande partie fait, même si la protection des monuments historiques est insuffisante en France par rapport aux richesses qu'il y a. Il y a quand même beaucoup d'endroits à classer, beaucoup de sites classés, beaucoup de secteurs sauvegardés. Or, je voudrais prendre un exemple quand même. Là, on parle de patrimoine de manière un petit peu, théorique. Actuellement, au moment où je vous parle, à Perpignan, où il y a plusieurs secteurs sauvegardés, eh bien, le maire de Perpignan, même alors que la loi Elan n'a pas été votée, je sais qu'on y reviendra, mais actuellement, les pelleteux sont à l'œuvre pour détruire des pans entiers de maisons anciennes qui sont normalement dans un secteur sauvegardé. C'est vous dire que, bien que tout cela soit théoriquement sauvegardé, on continue à démolir. Qu'est-ce qui doit décider qu'on sauvegarde? Il y a des commissions, il y a des personnes qui savent, des experts, et c'est, je pense que la protection du patrimoine doit être envisagée au niveau national et que c'est un rôle régalien de l'État de le protéger. Et moi, je suis très inquiet, justement, de tout ce qui s'est passé ces dernières années, de la décentralisation qui est souvent mal faite. On parlait des élus locaux. Il y a des élus locaux qui sont évidemment très concernés par le patrimoine, et puis il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins. Et est-ce qu'on peut laisser un élu local, qui est là pour 6 ans, 12 ans peut-être 18 ans, détruire la ville où il est, bah, je pose la question et à mon avis non. Donc c'est pour ça, pour répondre à votre question, il y a des lois et il faut déjà les respecter et malheureusement le ministère de la Culture est souvent trop faible pour le faire.
Patrick Bouchain, vous partagez ce point de vue ?
Oui, en même temps, moi, j'ai une confiance a priori. Voilà, donc je pense qu'on est dans un pays civilisé, formé, qui a des lois, il y a des élus qui prennent des responsabilités, et si les choses étaient visibles, les élus seraient jugés. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que même le travail de l'élu est toujours visible. Et donc, moi, je pense qu'en effet, il faut au contraire encore plus déléguer. C'est-à-dire qu'il faut déléguer, y compris jusqu'à une population. Puisque pour le patrimoine industriel, on peut dire que c'est souvent les travailleurs eux-mêmes et qui ont rappelé que les maisons dans lesquelles ils habitaient ou les usines dans lesquelles ils ont travaillé appartiennent au patrimoine. Pour le patrimoine rural, ça a été pareil. Et aujourd'hui, on pourrait dire que pour le patrimoine du XXe siècle sur le logement social, on peut penser que nous détruisons là un logement social qui est un capital social, qui correspond à une politique sociale d'après la guerre et elle appartient au patrimoine de la France. Donc justement, c'est pas théorique, c'est d'élargir pour ne pas rester que sur des secteurs qui sont hyper protégés, comme les secteurs sauvegardés ou comme les villes historiques, pour n'en faire qu'un patrimoine, en fin de compte, un patrimoine d'objet unique. Pour moi, c'est un objet qui s'inscrit dans l'ensemble. Et pour cela, moi, je pense qu'il faut pouvoir se servir du patrimoine qui nous appartient. Et à titre d'exemple, mettons, il y a une école de plein air qui a été construite à Suresnes par Marcel Lotz, qui est considérée comme la plus belle architecture contemporaine concernant l'éducation nationale. Et aujourd'hui, elle ne peut pas être gardée, cette école, parce qu'elle ne correspond pas aux normes énergétiques. Puisque comme elle est une école de plein air, elle ne peut pas être isolée. Et donc, comme elle ne peut pas être isolée, elle ne peut pas être encore une école. Et donc, c'est plutôt de cela dont on devrait parler. Est-ce qu'on peut, en effet, mélanger nos lois, mêler nos pratiques et donner une responsabilité et être jugé sur nos actes.
Philippe Bellaval, on voit à quel point c'est complexe finalement quand on parle de cette question du patrimoine, ne serait-ce que par la variété déjà de tout ce qu'on a pu évoquer, depuis un centre historique à Perpignan jusqu'à une école à Suresnes, à des questions de normes, à des questions de bâtiments classés. Il me semble que dans la mission, en tout cas dans les services patrimoniaux de l'État, ça regroupe à la fois la question de l'architecture, de l'archéologie, des monuments historiques, des archives, des musées, bref, beaucoup, beaucoup de choses. Comment est-ce qu'on met de l'ordre un petit peu là-dedans ?
Mais ça recouvre effectivement beaucoup, beaucoup de choses que l'approche administrative cloisonne très souvent, alors que sur le terrain, ces différents objets, ces différentes collections participent de la vie d'un même territoire. Et moi, je crois qu'un des grands enjeux de la mission que Françoise Nyssen m'a confiée, c'est d'essayer de voir comment on peut remettre de la globalité dans l'approche des différents éléments du patrimoine. Cette globalité, elle n'est pas nécessairement opposée à l'efficacité, de mon point de vue, bien au contraire. Je voudrais quand même, si j'ai juste un instant...
Vous avez un instant.
Ne connais pas le dossier de Perpignan. Bon, je n'ai pas de responsabilité opérationnelle au ministère, mais je pense qu'il faut que nous soyons conscients du fait que beaucoup de centres anciens de nos villes, grandes, moyennes ou petites, beaucoup de villages dans les territoires ruraux, etc., aujourd'hui sont dans un état de quasi-abandon. Et que cet état de quasi-abandon est un facteur de désespérance sociale et ensuite de populisme. Et que si nous mettons tout cela sous cloche, si nous refusons a priori, après il faut voir comment on le fait, mais si on refuse a priori de faire, d'organiser la rencontre de cet héritage du passé avec les besoins d'aujourd'hui et de demain, je crois que nous faisons une grande erreur, aussi bien sur le plan culturel que globalement sur le plan social et je dirais politique.
Didier Rickner, en effet, c'est vrai que puisqu'on parle de l'extension du domaine du patrimoine, le budget du ministère de la Culture, lui, n'est pas extensible à l'infini, pas plus que les budgets des locaux et des villes ou des départements ou des régions. Et donc, il faut bien faire des choix, qu'on comprenne bien. Vous ne préconisez pas de toujours conserver et de toujours figer les choses dans leur état, ou est-ce que si, c'est plutôt ce que vous souhaiteriez ?
Sûrement pas, mais là, je parle pour Perpignan. Je voudrais quand même préciser les choses. On parle d'un secteur sauvegardé avec des maisons qui vont être détruites, qui sont marquées sur le secteur sauvegardé comme à conserver. Donc je suis désolé, mais le choix a été fait de conserver et finalement on va démolir. Et pourquoi ? Parce qu'effectivement, certains centres anciens sont abandonnés, la plupart du temps souvent parce que les mairies les abandonnent, et elles vont demain pouvoir les détruire parce que une fois qu'une maison est abandonnée, elle va être en péril et elle pourra la détruire sans même l'aval de l'architecte des bâtiments de France. Mais pour en revenir à ce que vous disiez sur le budget, je pense qu'il ne faut pas confondre deux choses. Hein. D'abord, il y a la protection qui souvent ne demande pas spécialement de l'argent quand il y a un bâtiment qui est en mauvais état et qui est en centre-ville. Soit on le détruit et on reconstruit, ça va coûter, soit on le restaure et ça coûte également. Donc c'est un choix entre deux choses. Et deuxièmement, le budget du ministère des Cultures. Savez-vous combien, pour les monuments historiques seuls, de pourcentage du budget est consacré donc aux monuments historiques ? 3% du budget du ministère de la Culture est consacré aux monuments historiques. Et si on prend tout ce qui concerne le périmètre donc de la mission de Philippe Bélaval, c'est-à-dire le patrimoine, archives, archéologie, monuments historiques, musées, ça représente 9% du budget du ministère de la Culture. Qu'on arrête de parler de budget, le budget c'est rien. Surtout quand on voit déjà le budget du ministère de la Culture par rapport au budget global de l'État, c'est-à-dire même à peine 1%, et bien dans ce 1%, 9% sont consacrés au patrimoine. Donc arrêtons de dire cela. Je prends souvent un exemple, c'est dire que si vous êtes en faillite personnelle et que vous arrêtez de prendre le café le matin, tous les matins, vous ne serez pas mieux le soir, vous n'aurez pas plus d'argent. C'est ça, c'est le café du matin, le patrimoine. Donc on peut toujours prendre deux cafés. Ça ne changera rien à votre situation personnelle.
Philippe Bélaval, avant de donner la parole à Patrick Bouchain, je voudrais que vous répondiez à cette interpellation finalement de Didier Ricknard, même si vous n'êtes pas responsable du budget au ministère de la Culture.
Non, l'extension du champ du patrimoine entraîne fatalement, j'allais dire arithmétiquement, une extension des besoins financiers pour notamment le restaurer ou pour le faire vivre. Notamment, c'est un sujet par rapport au patrimoine qui est en main publique, dans les mains de l'État ou dans les mains des collectivités territoriales. Mais je pense que c'est moins un problème de budget que d'économie, si vous me pardonnez de jouer un peu sur les mots.
Il faut préciser alors. Pour
non, mais ce que je crois, c'est que lorsqu'on pense à un monument ou à un site, on pense immédiatement utilisation culturelle, muséification, entre guillemets, ce qui n'est pas d'ailleurs dans ma bouche un terme despicatif. Voilà, et on voit immédiatement se générer des coûts de fonctionnement, des coûts d'exploitation, etc. sans fin. Voilà. Et je trouve que nous avons une énorme réflexion à mener qui, ces dernières années, ne l'a pas été, de mon point de vue, suffisamment et qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous dispenser de mener, qui est de savoir comment faire en sorte que, justement, le patrimoine rencontre les besoins économiques et sociaux du moment. Et que, parfois, la réutilisation, le remploi de monuments historiques peut constituer une solution valable. Bon, ça pose beaucoup de questions. Justement, l'exemple de l'école de Suresnes est excellent parce qu'on voit bien que la question des normes est tout à fait centrale dans cette réflexion, dans cet exercice. Mais en tout cas, ce qu'il y a, c'est que si nous voulons, dans la durée, renforcer, maintenir et renforcer le lien du patrimoine et de la nation, il ne faut pas qu'on en fasse uniquement un héritage plus ou moins improductif du passé, mais qu'on en fasse un outil de la transformation du pays.
Alors Patrick Bouchain, quand on parle réutilisation, évidemment, vous ne pouvez qu'intervenir parce que c'est un des principes de votre pratique architecturale, c'est justement cette idée qu'il faut réutiliser, réhabiter, plutôt que de détruire ou simplement de restaurer.
Oui, mais c'est pour ça que, en effet, c'est une question d'argent, mais ce n'est peut-être pas qu'une question d'argent dépendant du ministère de la Culture. Et c'est pour ça que si on reglobalise les choses, on trouvera l'argent, les lignes, qui existent sur d'autres postes. Vous voyez, si aujourd'hui vous avez un maire d'un petit bourg ou d'une petite commune, qui, sachant que la maison qui est en train de se détruire, il ne pourra pas la relever, parce qu'il devra la relever à l'identique de ce qu'elle était dans son état d'origine, et qu'il n'en aura pas les moyens d'en faire un logement social, par exemple, puisqu'il ne recevra pas les crédits correspondants, et donc il va préférer la laisser se détruire et laisser en fin de compte son petit village en plein cœur perdre toute son identité patrimoniale. Donc il faudrait pouvoir en effet réintégrer dans ce patrimoine historique, quand quelque chose n'a pas de valeur, parce que quelquefois c'est même une valeur négative, puisque vous avez des gens qui ne veulent pas garder leur patrimoine, parce que payer l'impôt sur ce patrimoine, ils n'en ont pas les moyens, et donc ils veulent en perdre la propriété. Et donc il faudrait dire que, en effet, ce patrimoine redevient le bien de tous, puisque les gens veulent en perdre la propriété, que cette valeur nulle ou négative, elle peut être prise en charge éventuellement par un organisme social, un organisme HLM ou une collectivité, pour en avoir un autre usage. Et pour cela, il faudrait donc que la réglementation, celle, mettons, de l'accessibilité ou celle de la performance énergétique, puisse être analysée à juste titre. Si vous voulez, c'est comme si demain on devait rendre climatisé ou rendre isolé toutes les églises au prétexte que c'est un lieu recevant du public et que ce lieu recevant du public devrait être conforme aux normes énergétiques. On peut quand même accepter d'aller à un concert dans une église en n'étant pas chauffé sur un sol plan et avec une lumière du jour, par exemple. Et donc, c'est de tout cela dont on devrait parler, et c'est de tout cela qui fera qu'en effet, une population élue comme habitants, parce que je considère les élus comme des habitants de leur village ou de leur bourg, pourront prendre en main leur patrimoine et redonner du travail. Non, parce que je pense que dans ce que Philippe Blaval annonce, c'est ça qui est important, c'est que il y a une inactivité qui se met en place parce que l'activité ne pourrait être redonnée que sous une autorité venant de l'État. Mais ça, on le sait bien que ça ne peut pas marcher.
Juste Philippe Blaval, avant de redonner la parole à Didier Rickner, cette question finalement de la confrontation des réglementations. Dans le propos à l'instant de Patrick Bouchard, on voit que les réglementations qui touchent les monuments historiques vont venir se confronter aux réglementations, par exemple, des HLM ou d'une école ou d'autres types de réglementations. Est-ce que, par exemple, un directeur ou un directeur du patrimoine du ministère de la Culture a la main là-dessus et pourrait essayer de mettre un petit peu d'huile dans les rouages ?
Je ne crois pas qu'il l'ait aujourd'hui, et c'est un grand enjeu qu'il puisse l'apprendre. Parce que il faut voir aussi tout un tas d'effets pervers de cela. C'est qu'effectivement, faute de pouvoir réutiliser l'existant pour remplir ses besoins réels, hébergement de personnes âgées, maisons pour les associations, crèches, etc., ou logement, on construit, et c'est du mitage en espace rural, c'est de l'étalement urbain en milieu périurbain, c'est de la construction en hauteur en centre urbain, et c'est donc tout un ensemble de mécanismes à faire souvent du mal vivre qui se mettent en route. Voilà. Et donc, il faut vraiment se rendre compte que le bâti existant, protégé ou non, est véritablement un atout de développement durable.
Didier Rickner, sur cette possibilité finalement de trouver les moyens de rénover, de restaurer, en tout cas de faire vivre le patrimoine par son occupation, que ce soit, ça vient d'être dit par Didier Rickner, par des EHPAD, des crèches, des logements sociaux, que sais-je, est-ce que ça vous paraît une solution envisageable qui vous satisferait ?
Mais bien sûr, ce qui est très important, et là je suis entièrement d'accord avec vos deux autres invités, c'est d'abord qu'il faut réutiliser les monuments historiques. On peut utiliser des monuments historiques différemment de ce pour quoi ils ont été conçus, ça, absolument. Et deuxièmement, et ça c'est très important, effectivement, il y a actuellement, on a évité le pire récemment, il y a 3-4 ans, sur une loi qui voulait imposer l'isolation par l'extérieur pour tous les monuments en dehors des monuments protégés, ce qui veut dire qu'on ne se serait pas promené dans une campagne où partout, tout aurait été couvert de plaques de protection, enfin c'est une catastrophe, mais ça existe toujours. Il faut savoir qu'actuellement, la réglementation, il y a des subventions données pour isoler les habitations par l'extérieur, par les toits, etc., ce qui peut aboutir à des catastrophes, et quand c'est fait sur un bâtiment ancien. Faisons-le déjà sur du bâtiment récent après 45, et encore, bien sûr, il y a des monuments qu'il ne faut pas protéger de l'extérieur parce que ça va être dangereux, ça va les abîmer, des monuments récents parce qu'ils sont intéressants, mais les bâtiments anciens ont souvent une très grande inertie énergétique et sont souvent très, très, très économes en énergie. Donc, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, la loi incite à faire cela. incite à détruire le bâtiment ancien, et donc je suis absolument d'accord avec ce qu'a dit Patrick Bouchain et ce que dit Philippe Bellaval. On pourrait également, peut-être que ça va venir tout à l'heure, parler également des éoliennes, qui sont actuellement subventionnées extraordinairement, et qui ne sont pas une solution énergétique, ça a été prouvé toujours, ça a été prouvé largement, et qui couvre le pays actuellement, c'est absolument effrayant. Et ça, ça détruit le patrimoine naturel. Des milliers de tonnes de béton coulées dans le sol, les oiseaux, les chauves-souris détruites, enfin c'est une catastrophe. Et ça, ça se passe, évidemment, sous Emmanuel Macron, parce que je pense qu'on parlait d'Emmanuel Macron à un moment donné, il faut voir que parler du patrimoine et laisser se faire ça, faire cela, pour moi c'est très grave.
France Culture, du grain à moudre d'été, Raphaël Bourgois.
18h41 sur France Culture, on parle ce soir des questions de patrimoine dans du grain à moudre d'été avec nos trois invités. Philippe Bellaval, qui est le président du Centre des Monuments Historiques et qui vient d'être renouvelé à ce poste et qui est chargé d'une mission de réorganisation de la Direction Générale du Patrimoine au sein du ministère de la Culture, avec Patrick Bouchain qui est architecte et avec Didier Rickner qui est historien de l'art et fondateur de la Tribune de l'Art et qu'on vient d'entendre. Alors on a beaucoup parlé, et puisque on vient de parler d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire de repartir un petit peu sur la question politique, on a pas mal parlé un petit peu de cette loi Élan, Patrick Bouchain. C'est donc la loi qui est actuellement discutée, je crois, là elle est au Sénat, elle doit arriver en commission mixte paritaire à la rentrée. C'est une loi dans laquelle il y a une disposition à l'article 15 qui stipule que dans certaines circonstances, les architectes des bâtiments de France n'auront plus qu'un avis consultatif et non plus définitif, et ce sera aux élus locaux de décider si, notamment quand un bâtiment est insalubre ou trop vieux, de le détruire plutôt que de le restaurer. Est-ce que cette loi Élan, qui aussi parallèlement pose des questions sur le rôle des architectes quand il s'agit de construire, est-ce que cette loi Élan, selon vous, va dans le bon sens, ou est-ce qu'elle pose là aussi des questions, un problème, ou peut-être un manque de réflexion sur ce qu'est le patrimoine aujourd'hui ou ce que peut être l'architecture ?
Non, je pense que, en effet, peut-être que la loi Élan n'a pas été discutée, ou tout au moins, elle n'a pas été élaborée comme l'avait été la loi Création, Architecture et Patrimoine précédente. Elle n'a pas été assez discutée avec tous les acteurs, car il n'y a pas que les architectes. Voilà, les architectes sont des acteurs principaux, mais il n'y a pas que les architectes. Puis il n'y a pas que les architectes des bâtiments de France, car moi-même, j'ai donc fait l'expérience, si vous voulez, j'ai quand même 40 ans de pratique professionnelle, comme quoi la loi est négociable. Tout au moins, la loi est interprétable. Ou tout au moins, réunir autour d'une table les détenteurs du pouvoir local, un élu et un architecte des bâtiments de France et un maître d'ouvrage, on est quand même dans un pays civilisé où on peut négocier. Quoi.
Donc, même quand on intervient à Versailles, par exemple, comme ça a été le cas pour vous, avec pour Bartabas, sur les écuries de Versailles.
Bah, si vous voulez, j'avais repris une citation de Prosper Mérimée qui disait que est-ce que l'édifice est une construction décorée ou est-ce que c'est une décoration construite ? Voilà. Alors donc, quand vous regardez Versailles, est-ce que Versailles est un décor ou est-ce qu'un Versailles est une architecture ? Quand j'ai pris les grandes écuries à Versailles, c'est l'armée. Donc c'est un service de l'État qui donc avait utilisé les grandes écuries. Ils ont laissé les grandes écuries comme aucun locataire malpropre aurait laissé ces grandes écuries. On a donc décidé de construire un décor non fini pour montrer dans quel état, en effet, l'armée avait laissé ce bâtiment, et en même temps révéler ce qu'était la capacité d'un bâtiment de Jules Hardouin Mansart. Donc on a fait un décor, dans un décor, et la Commission supérieure des monuments historiques, donc qui avait son mot à dire, bien que ce soit un élément intérieur, a considéré que ce que l'on faisait était reversible, et donc en riant avec Bartabas, on s'est dit, mais alors qu'est-ce qui n'est pas reversible ? Parce que tout est reversible, si vous voulez. Quand on voit que Versailles, dans son ensemble, a été construit sur plusieurs siècles, et que la galerie des batailles, par exemple, est-ce qu'aujourd'hui il faudrait supprimer la galerie des batailles au prétexte qu'il faudrait remettre les appartements de la cour ? Non ! Donc on voit bien que le patrimoine doit être, en effet, tout le temps enrichi par le peuple et par donc des besoins, et c'est cet enrichissement-là qui l'emmène dans le temps et qui montre aussi la fragilité de notre vie, peut-être par rapport à un bâtiment qui dure plus longtemps que nous.
Alors on est resté très peu de temps sur la loi Élan, mais ce que vient de dire Patrick Bouchain est très important et très intéressant. Rappelons tout de même que Prosper Mérimée est l'un des pères de la politique patrimoniale, c'était au 19e siècle évidemment, Philippe Bellaval, sur cette question, voilà, est-ce qu'il faut toujours rechercher l'origine d'un bâtiment, l'origine du patrimoine, ou accepter que le patrimoine a évidemment une histoire, vit, et donc a été modifié au cours du temps.
C'est d'ailleurs... C'est le propre des architectes du patrimoine, des architectes des monuments historiques, bien sûr des historiens de l'art, pour chaque projet de restauration, de prendre parti sur un état de restauration. Et évidemment, pour des monuments qui ont eu une vie longue, complexe, parfois agitée, eh bien, cela donne lieu chaque fois à des débats. Mais je crois qu'il est extrêmement important, j'essaie à nouveau de me projeter vers l'avenir, de se dire que la vie de tous ces monuments, elle ne s'arrête pas avec nous. Elle doit continuer, nous allons les transmettre, et nos successeurs après nous devront s'en emparer, devront les accompagner. Et ça, je crois que c'est extraordinairement important de ne pas arrêter la vie des monuments, parce que arrêter la vie des monuments, c'est les condamner à mort, en fait.
Didier Rickner.
Arrêter la vie des monuments, oui, c'est les condamner à mort. Les détruire, surtout, c'est les condamner à mort. Or, il faut voir que le patrimoine en France, quand il y a une protection sur un monument, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on considère qu'il a un intérêt à être conservé tel quel. Alors, tel quel, ça ne veut pas dire qu'on doit le laisser figer, mais ça veut dire qu'on doit le conserver le plus proche possible du dernier état d'origine. Il y a, il faut le rappeler, une charte qui s'appelle la charte de Venise, qui s'impose à tous, et qui dit, parce que la France l'a ratifiée, et qui dit que quand on restaure un monument, il faut le laisser dans le dernier état historique connu. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, ça veut dire qu'il faut le faire avec beaucoup de prudence. Voilà.
Mais qu'est-ce qu'on fait alors de la flèche de la basilique Saint-Denis, par exemple, qui a été déposée au XIXe siècle, Didier Rickner? Qu'est-ce qu'on fait de la flèche de la basilique Saint-Denis?
La flèche de la basilique Saint-Denis, pour moi, c'est le dernier état historique connu, c'était l'état qu'on connaissait juste avant qu'on décide de le reconstruire. D'ailleurs, il faut rappeler que c'est une reconstruction qui n'a pas été validée par la Commission nationale des monuments historiques, et finalement qui est décidée parce qu'on avance, on avance, on avance, sans que ça n'ait jamais été validé. Pour moi, c'est une hérésie. On va dépenser beaucoup d'argent pour restaurer quelque chose qui n'existe plus depuis un siècle et demi, alors qu'il y a même à Saint-Denis, même dans la basilique Saint-Denis même, et Philippe Laval le sait bien, puisqu'il a en charge une partie, pas la flèche, hein, ce n'est pas du tout sa responsabilité, mais il a en responsabilité l'entretien d'une partie de la basilique Saint-Denis, et qu'il y a d'autres priorités à Saint-Denis et partout ailleurs. Donc pour moi, on ne doit pas reconstruire ce qui a disparu. C'est absurde. Alors, quand quelque chose vient de brûler, quand quelque chose vient de détruit par une guerre, etc., si, on peut effectivement restaurer, ce qui n'est pas reconstruire, mais restaurer. Mais quand quelque chose a disparu depuis un siècle et demi, on ne le reconstruit pas.
Patrick Bouchard.
Non, bah, pour Saint-Denis, puisque quand justement Françoise Dyssen est venue pour signer la convention de la reconstruction de la flèche, on est allé en face, puisque je me suis occupé d'une chose qui est peu visible, qui est l'îlot du Cygne. Et l'îlot du Cygne, c'était un foyer de Maliens, et donc ça faisait 30 ans que la mairie devait les reloger dans des logements, et le jour où ils sont partis, la ville a pris la décision de démolir. Et comme vous le savez, Saint-Denis est la seule ville qui a un service d'archéologie, puisque quand il y a eu la construction du métro, ils ont mis en place un service, et ce service est resté. Et donc la personne qui dirige ce service, elle m'appelle et me dit « comment peut-on faire pour que cette maison ne soit pas détruite ?» Et donc comme cette maison était en très mauvais état, et que c'était une maison du XVe siècle, et qu'il fallait la garder en l'état pour la voir dans son état détruit, parce que je pense qu'on pourrait aussi parler de la ruine, qui des fois, parce qu'elle laisse un vide, elle parle plus que la chose restaurée. Et donc on a décidé que cette maison, qui était un ancien foyer de Maliens, qui était un ancien relais de poste, qui était une maison donc du XVIe siècle, on la garde en l'état et qu'on construise autour donc une sorte d'échafaudage qui la recouvre. Et c'est devenu un centre d'interprétation du patrimoine. Et ce que nous avons trouvé à cet endroit, on a trouvé à cet endroit des verreries, des vêtements en cuir et autres. Et ce sont en fin de compte des communautés de Burkinabé qui, ayant vu des objets qu'on avait trouvés, qui ont rappelé que le verre tel qu'il était là, c'était la même façon dont le verre mérovingien a été fait en Afrique. Et voyez, on a réintroduit à ce moment-là d'insérer une population qui s'est mise à travailler sur le patrimoine mérovingien, on pourrait dire. Et donc c'est ça pour moi le patrimoine. Il peut y avoir la basilique Saint-Denis d'un côté avec cette flèche qui a été démontée parce qu'il y a quand même eu une bataille entre les architectes en chef dont Viollet-le-Duc en était en partie responsable. Cette flèche qui est en partie démontée est stockée dans une ancienne école qui est désaffectée, qui est devenue elle-même le centre d'interprétation du patrimoine, et l'îlot du Cygne. voyez, qui en face était un foyer de Malien, devient un bâtiment observable. C'est tout ça, le patrimoine. Ça n'est pas ni un secteur sauvegardé, ni... C'est tout ça. Et dedans, il peut y avoir un secteur sauvegardé, un bâtiment inscrit à l'inventaire, un bâtiment classé monument historique, et peut-être un patrimoine privé. Parce que n'oublions pas qu'il n'y a pas que le patrimoine public. Il y a énormément de patrimoine privé qu'on doit libérer et dont on doit permettre aux gens d'avoir envie de le transmettre, d'avoir envie de le transformer, y compris pour l'habiter eux-mêmes.
Philippe Bellaval.
Tous ces exemples montrent la formidable pluralité et complexité des situations auxquelles les architectes, les spécialistes du patrimoine, les fonctionnaires du ministère de la Culture sont confrontés. Je crois que le patrimoine, de par sa richesse, de par sa diversité, ce n'est pas quelque chose dont on peut parler en termes manichéens, essayer de dégager des doctrines valables dans tous les cas de figure. Il faut pouvoir s'attacher à mesurer les particularités de chaque situation. Et c'est bien l'enjeu pour le ministère d'avoir sur le terrain, dans les départements, dans les régions, et puis évidemment au ministère, des fonctionnaires qui sachent répondre à toutes ces situations et dialoguer sur ces situations avec toutes les parties prenantes.
Didier Reckner, c'est vrai qu'on vient juste de l'évoquer, enfin Patrick Bouchain vient de l'évoquer, la question du privé, enfin en tout cas des acteurs privés sur le patrimoine. Il y a évidemment des lieux patrimoniaux qui sont occupés par des gens, par des individus qui les possèdent. Il y a aussi le rôle que le privé peut jouer par des financements dans la restauration ou le fait de faire vivre des lieux patrimoniaux. Comment est-ce que vous, quelle place vous leur donnez? On a compris que vous donnez une place importante à l'État, et notamment au ministère de la Culture, mais quelle place donner, puisque c'est une question importante aujourd'hui, à ces acteurs privés?
Elle est fondamentale, puisqu'évidemment, une grande partie du patrimoine en France est privée. Mais je peux vous dire, pour en connaître beaucoup, que beaucoup de propriétaires de châteaux sont désespérés. Enfin, ils ne sont pas désespérés, parce que ce sont des gens très courageux. Moi, jamais j'ai le courage de faire ce qu'ils font. Mais il faut se rappeler que ces gens-là, qu'on désigne souvent comme des privilégiés, sont en réalité des héros qui passent leur temps et tous leurs moyens pour la restauration. Et ils sont confrontés à quoi? Ben, ils sont confrontés à des baisses de subventions, et clairement, ils sont confrontés à des problèmes fiscaux qui ne sont pas forcément optimum pour eux. Et ce qui se passe est un peu inquiétant. Il y a beaucoup de châteaux qui ne trouvent pas preneur. Pourquoi? Parce qu'un château, ben, vous pouvez regarder, si vous avez 600 000 euros, 500 000 euros, 800 000 euros, vous pouvez acheter, c'est-à-dire même pas le prix d'un appartement à Paris, vous pouvez acheter un château, mais après, vous allez avoir besoin de beaucoup d'argent pour le restaurer. Et malheureusement, les aides ne sont pas suffisantes, et surtout, on leur met parfois des bâtons dans les roues. Il faut rajouter quelque chose. Il y avait avant l'État, donc les DRAC, les Directions Régionales des Affaires Culturelles, faisait la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire qu'elle décidait au point de vue, enfin avec le propriétaire bien sûr, avec les maires, avec les propriétaires, de ce qu'il fallait faire. Or maintenant, la maîtrise d'ouvrage, elle est laissée aux maires et aux propriétaires privés. Or, c'est un métier, ça ne s'apprend pas. Et ils sont souvent très seuls par rapport à un bâtiment qui s'effondre, donc ils ne savent pas très bien quoi faire. Et malheureusement, sauf dans certaines régions comme la Bretagne où il y a une assistante à maîtrise d'ouvrage, souvent les DRAC les abandonnent un petit peu. Donc les propriétaires privés sont très importants, malheureusement ils se sentent bien seuls.
Alors on en revient au château et aux questions d'argent. On était parti un temps du côté de l'Afrique et des vers mérovingiens à l'époque médiévale, mais on en revient un petit peu aujourd'hui. Vous avez raison de nous ramener dans nos campagnes bretonnes, tout à fait. Didier Reckner, Patrick Bouchain, vous réagissiez quand même à ce qui vient d'être dit. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord?
Non, c'est pas ça. C'est que moi, je pense qu'en effet, parce que j'ai exercé de la maîtrise d'ouvrage au ministère de la Culture au moment du Grand Louvre, dans l'établissement public du Grand Louvre. On a créé un établissement public pour faire le Grand Louvre. J'y ai donc réalisé le jardin des Tuileries avec avec trois paysagistes et avec Ayam Pei. Et donc, on s'est rendu compte qu'à un moment donné, en effet, l'État, et ça, je suis tout à fait d'accord, à des compétences dont ces compétences peuvent être exportées. On a vendu, d'ailleurs, l'établissement du Grand Louvre, notre savoir, à des pays étrangers. En effet, on pourrait dire que dans le cadre de la décentralisation, il y a des des compétences dans l'État central qui n'ont pas été totalement transférées au sens de la transmission d'un savoir ou d'une liberté donnée ou disons d'une confiance déléguée. Et il ne faut pas oublier que dans les DRAC, il y a des conservateurs, il y a des archéologues, il y a des architectes et autres, et que donc l'État est quand même représenté. Et dans les collectivités locales, dans les régions et dans les collectivités locales, les mairies, il y a des compétences architecturales. Et donc quand il y a eu des monuments qui ont été apportés donc aux régions, il y a eu un transfert de compétences au niveau maîtrise d'ouvrage. Et moi, mettons, pour avoir travaillé dans la région centre, il y a une très grande compétence en région centre sur la maîtrise d'ouvrage que l'État donc a délégué à cette région. Donc je crois que c'est ce travail-là qu'on doit faire. On est trop centralisé. On est dans un État trop centralisé et avec pas une assez grande délégation, une non-interprétation démocratique de la loi et surtout une mise en mouvement d'un peuple qui désire garder son patrimoine. Oui.
Philippe Bellaval.
Non, je crois que l'exercice de la maîtrise d'ouvrage, je vais défendre la réforme qui a été opérée il y a quelques années, la maîtrise d'ouvrage est une composante indissociable du droit de propriété. Vous êtes chez vous, donc vous conduisez les travaux que vous voulez faire chez vous. Alors, je crois que pour les grandes collectivités publiques ou pour des propriétaires privés très fortunés, ça ne pose pas de difficultés de s'associer, parce qu'ils ont les services pour les premiers où ils peuvent s'associer des compétences. En revanche, pour les petites collectivités où monsieur et madame tout le monde, ça, c'est un peu plus difficile. Et le sujet de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage qu'évoque Didier Rickner est un sujet important et ce sera un des sujets au centre du rapport que je remettrai à Françoise Nyssen au mois de septembre.
Alors justement, puisqu'il nous reste à peu près une minute, Philippe Bellaval, je ne vais pas vous demander de nous livrer, surtout qu'il n'est pas terminé, vous devez le rendre mi-septembre ce rapport, vous avez travaillé tout l'été, mais quelques pistes peut-être qui vous paraissent intéressantes par rapport à ce qu'on a dit tout au cours de cette émission sur le patrimoine, voilà cette projection vers le futur que vous nous proposez sur la politique patrimoniale.
Le point le plus essentiel, je crois, c'est de définir le niveau juste d'intervention. Quand je dis le niveau, c'est le niveau hiérarchique, mais c'est aussi le degré et l'instrument. Et je crois que le patrimoine est porteur d'énergie formidable et il faut libérer ces énergies pour qu'elles contribuent au dynamisme, à l'attractivité, à la fierté du pays et de sa population.
Patrick Bouchard, vous voulez dire un dernier mot ?
Bah oui, je vais demander à Philippe Bellaval de prendre en compte que dans la Direction Générale des Patrimoines, il y a l'architecture et qu'il y a donc l'enseignement de l'architecture et qu'il y a donc 20 000 étudiants qui étudient sous contrôle, on pourrait dire, ou sous autorité du ministère de la Culture. Et c'est peut-être ça qui favoriserait, y compris, la diffusion de la pensée architecturale sur le patrimoine.
C'est un gisement effectivement formidable.
Je n'ai pas le temps de vous redonner la parole, Didier Rickner, mais je suis sûr que vous seriez d'accord sur cette idée de la place centrale de l'éducation de l'éducation au patrimoine, évidemment, depuis l'école jusqu'à la fac d'archi, c'est sûr que c'est central et fondamental. Merci beaucoup Philippe Bellaval, Patrick Bouchain et Didier Rickner d'avoir participé à cette émission qui a été préparée exceptionnellement avec l'aide toute particulière de Marie Ferré. Un grand merci à toute l'équipe qui m'a accompagné pendant ce mois de juillet. Leïla Saïdi, Camille Ferré, Céline Leclerc, Marine Lerouge et Imen Mélaz. À la réalisation, c'était Anne de Pelchin, à la prise de son Jean-Guilain Mer. Le grain à moudre d'été se poursuit évidemment pendant tout le mois d'août. Dès lundi, il vous sera présenté par Mélanie Chalandon. Quant à moi, je vous donne rendez-vous samedi 1er septembre à 18h10 pour une nouvelle saison d'Avis Critique. La rentrée des essais s'annonce absolument passionnante. D'ici là, excellentes vacances à tous, à l'écoute de France Culture bien évidemment.